nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Au train de la croissance économique des Trente Glorieuses, la masse même de la Lune, puis celle de la Terre, de Mars et de Vénus, serait en quelques années du prochain millénaire transformée en frigidaires, machines à laver et immeubles en béton. C'est ce constat si sage, à l'heure où il est urgent de passer au développement durable, qu'a prononcé Jean Fourastier, économiste majeur, celui qui a inventé le concept des Trente Glorieuses. Jean Fourastier ne nous aide pas uniquement à penser cette croissance exceptionnelle d'après-guerre, mais à envisager l'après. Il a prédit très tôt certaines données, comme la croissance faible, le ralentissement des progrès de la productivité et un chômage de masse. C'est pour donner suite à la pensée de Jean Fourastier, membre de l'Institut, qui a organisé un colloque, c'était le 28 novembre 2007, consacré aux questions de progrès technique, de croissance et de développement. Vous trouverez dans une autre émission sur Canal Académie les allocutions de Robert Solo et de Michel Pébreau, invités de ce colloque. Autre invité prestigieux, Michel Albert, ancien commissaire général au plan, comme Jean Fourastier, ancien président des assurances CGF et aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France et président d'honneur du comité Jean Fourastier. Michel Albert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Également parmi nos invités, Jean-Pierre Chamoux, professeur à l'Université Paris 5, René Descartes, et président du comité Jean Fourastier. Bonjour, monsieur Chamoux.
Bonjour, madame.
Jean-Pierre Chamoux, vous intervenez lors de ce colloque sur les questions d'emploi, de croissance et de développement. Des questions cruciales à l'heure actuelle et qu'il faut bien cerner pour savoir ce dont on parle. Le terme central, celui de croissance, ne peut plus être appréhendé comme lors des Trente Glorieuses, puisque la croissance de la production et de la consommation n'est pas indéfinie, et parce que les matières premières ne sont pas non plus indéfinies.
C'est vrai que les matières premières ne sont pas indéfinies, mais il y a dans la croissance, il y a dans la production, certes la production des biens, la production des choses, l'extraction des produits du sol, mais aussi d'autres formes de production sur lesquelles Jean Fourastier nous avoue très clairement ouvert l'esprit, qui est la production du tertiaire. Et puisque vous avez évoqué il y a quelques instants la carrière très brillante, très remarquable que monsieur Michel Albert a eue comme assureur, l'assurance est un des domaines du secteur tertiaire où, très clairement, ce que l'on produit est du domaine parfaitement intangible. On produit de la sécurité, des garanties contre les risques de la vie, contre les risques des accidents, contre les risques très, très largement imprévisibles de la vie professionnelle ou de la vie privée. Eh bien, ce type de prestation, c'est une prestation tertiaire dont Fourastier nous avait dit beaucoup de choses, d'autant qu'il a été, ça a été sa première fonction avant même qu'il soit le grand enseignant et le chercheur qu'il a été, il était commissaire au corps des assurances du ministère de l'économie et des finances.
Commissaire contrôleur.
Contrôleur au corps des assurances, où il a un concours qu'il avait passé avant-guerre et dont il a été un des membres éminents avant que ce corps de contrôle ne se fonde dans les nouveaux corps d'État après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a bien des éléments de production qui ont marqué la période des Trente Glorieuses et qui sont des éléments de production manufacturière, fabrication des autos, des machines à laver et de tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Il y a aussi des productions incorporelles qui sont principalement des productions de services. Et ces productions de services, Fourastier nous a très clairement dit qu'elles constituaient l'avenir de notre croissance et nous en avons aujourd'hui la preuve éclatante.
Michel Albert, sur l'avenir justement de cette croissance. Jean Fourastier disait bien que la période des Trente Glorieuses formait une sorte de période de transition avant un nouvel équilibre qui serait atteint grâce à la suprématie du secteur tertiaire. Est-ce qu'on est arrivé à ce point d'équilibre ?
Oui, je crois qu'il faut rappeler que Jean Fourastier, d'abord, est le plus grand économiste français de tous les temps, à ma connaissance, n'est-ce pas ? Cela n'a pas encore été entériné par la corporation des économistes, en partie peut-être parce que Jean Forestier n'était pas de la corporation des économistes, parce qu'il était ingénieur et il est resté ingénieur jusqu'au bout de sa vie avec un souci de l'observation des faits, de la rigueur technique. C'est un technicien d'ailleurs du progrès technique. Et j'ajoute que de la même manière, les deux autres grands économistes qui ont le plus marqué cette génération sont des ingénieurs, c'est Alfred Sauvy et c'est mon prédécesseur, l'illustre, le magnifique Pierre Massé. Alors, Jean Forestier, pourquoi dis-je qu'il est le plus grand économiste français ? D'abord parce que aucun économiste français n'a eu le succès mondial de Jean Forestier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait une quarantaine de livres qui ont été tirés à des millions d'exemplaires, qui ont été commentés partout, et dans lesquels il apporte essentiellement deux grands enseignements. Le premier, c'est que l'enrichissement, la richesse des nations, elle provient de quoi ? Elle provient de la productivité. La productivité est un mot inconnu avant Forestier. Forestier fait un que sais-je en 1952, intitulé La productivité, c'est quoi ? C'est le rendement du travail humain. C'est l'efficacité du travail humain. Et avant Forestier, non seulement on ne connaissait pas cette notion, mais on craignait que l'augmentation du rendement humain n'enlève les emplois aux autres, que le progrès technique ne soit un facteur de chômage. Tout à l'heure, vous avez articulé votre raisonnement en emploi, croissance, développement. Moi, je dirais que ce que Forestier nous enseigne, c'est que ce n'est pas par l'emploi qu'il faut commencer, c'est à l'emploi qu'il faut aboutir. Il faut commencer par la productivité qui résulte du progrès technique. Deuxièmement, la productivité permet de fabriquer, d'obtenir des surplus, et ces surplus peuvent être investis pour faire davantage de croissance. Et c'est grâce à cet investissement, à cette croissance et à la compétitivité des entreprises qu'elle permet, qu'il y a davantage d'emplois, n'est-ce pas ? C'est le cycle positif de la productivité, richesse des nations. Tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je voudrais le dire, je trouve merveilleux que le grand économiste anglais Adam Smith, le plus grand des économistes anglais, est écrit sur la richesse des nations, et que le livre de Jean-Louis Harwell, du professeur Jean-Louis Harwell, qui vient de sortir chez Gallimard sur Jean Forestier, est intitulé « Productivité et richesse des nations ».
Monsieur Albert, justement, sur la question de la productivité, étant donné que le secteur tertiaire...
Voilà.
Et majoritaire aujourd'hui.
Voilà.
Jean Forestier avait bien dit que les marges de productivité du secteur tertiaire étaient minimes.
Voilà, nous sommes habitués à parler de ces secteurs. Je voudrais faire un bref retour en arrière. Forestier a également introduit en France une idée qui était apparue en Australie, suivant laquelle il y a trois grands types de secteurs. Les secteurs primaires, c'est l'agriculture et les mines, avec augmentation de productivité moyenne. Le deuxième secteur, c'est le secteur secondaire, c'est l'industrie, avec un maximum d'augmentation de productivité due au progrès technique, et le secteur tertiaire, qui est un secteur où, dans bien des cas, l'augmentation de la productivité est faible. Exemple historique.
Emblématique, oui.
Emblématique, je vois que vous avez compris d'avance, c'est le coiffeur. Le coiffeur met autant de temps à vous coiffer, mademoiselle, aujourd'hui, que c'était le cas au XVIIIe siècle, à peu près, en tout cas.
Du coup, où sont les marges de croissance et donc de productivité, ou plutôt de productivité et donc de croissance aujourd'hui, Monsieur Chamou?
Elles sont dans une combinaison vertueuse entre les gains de productivité qui restent très importants dans un certain nombre d'industries, par exemple dans l'industrie de l'information avec les ordinateurs, tout ce qui nous permet ici d'organiser une émission radio diffusée par le web. Il y a derrière ça une industrie considérable, très international et avec des gains de productivité énormes.
Et cette industrie, des baisses de prix.
Et des baisses de prix gigantesques.
Gigantesques.
Que d'ailleurs Forestier.
Invisibles.
Oui.
Et peu connues.
Oui. Et que Forestier avait prévu, sans les décrire explicitement, ce dont on ne peut pas lui faire procès, mais il les avait prévus en disant, à propos des ordinateurs, que, effectivement, l'informatique révèle des gains de productivité considérables. Alors, je disais, certaines activités humaines, comme la banque, comme l'assurance, peut-être demain ou après-demain, comme certaines activités d'enseignement ou de formation, ont besoin de supports techniques. Et si la technique permet à ces supports d'être plus efficaces et d'être très bon marché, l'efficacité du travail humain, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, monsieur le secrétaire perpétuel, l'efficacité du travail humain augmente même dans le tertiaire. À titre d'exemple, en 1950, il n'y avait pas d'ordinateur dans les banques. Le jour où on a introduit les ordinateurs dans les banques, on a modifié très profondément le fonctionnement du service client, le fonctionnement des comptes chèques, les capacités d'échange entre banques pour équilibrer les comptes des uns et des autres, pour échanger l'argent et pour rendre l'argent disponible pour le crédit ou pour d'autres occupations. Et à partir du moment où il y a eu donc cet effet du progrès technique de l'informatique dans la banque a changé d'orbite. Elle est devenue à peu près omniprésente partout. Elle a créé de nouveaux produits financiers beaucoup plus originaux que ceux auxquels on pouvait penser avec la plume d'oie et la main de l'homme. Et donc, il y a une synergie, même dans le secteur tertiaire, et surtout dans les secteurs tertiaires de très grande ampleur comme la banque et l'assurance, que j'ai déjà cité, un effet de synergie entre la productivité industrielle, qui reste très très grande dans les technologies de l'information, par exemple, et la production du service aux clients, du service aux entreprises, du service aux particuliers. Il y a donc ce que Fourassier nous avait laissé entendre un peu, sans expliciter clairement la mécanique encore à l'époque où il écrivait ses œuvres principales, à la fin des années 60 ou au début des années 70, il y a bien un tertiaire dans lequel la productivité a un rôle essentiel. J'ai cité les deux grandes branches des activités qui marquent beaucoup les pays occidentaux comme la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc des activités de service industrialisés dans leur méthode, mais où l'élément clé de production est l'homme, la disponibilité de l'homme pour rendre service aux autres. Et là-dessus, Fourastier nous laissait entendre que la combinaison du progrès technique et de ces grandes unités de service allait non seulement créer beaucoup d'emplois, ce qui a été le cas depuis les 40 dernières années à peu près, mais aussi avoir des effets vertueux sur d'autres secteurs. Ainsi, les garanties d'assurance dans les grandes industries modernes sont un élément d'appui au développement des industries manufacturières. Et en échange de quoi, les grandes industries manufacturières de la pharmacopée ou de l'industrie de l'information ont un effet vertueux sur les prestations de santé ou sur les prestations de type bancaire ou d'assurance. Il y a donc entre les deux, secteur tertiaire et secteur tertiaire industrialisé et secteur tertiaire globalisé aujourd'hui, et puis les effets de la productivité industrielle, un effet que je qualifie à nouveau de très vertueux, dont Fourastier nous a donné la primeur et que nous voyons aujourd'hui se développer dans l'économie contemporaine.
Monsieur Albert, est-ce que les données n'ont pas changé quand même depuis les années 60, enfin à plusieurs niveaux, et notamment sur la question des limites des matières premières? Et d'ailleurs, Jean Fourastier avait un peu entrevu cette question, puisque bon, à l'époque où il écrivait, il disait que dans les 200 prochaines années, les matières premières ne connaîtraient pas de limites, mais on le sait aujourd'hui, certaines matières premières ne peuvent pas connaître les gains de rendement qu'elles ont connus précédemment. Comment aborder aujourd'hui avec ces nouvelles données des matières premières en voie de raréfaction, la question de la croissance et de la productivité?
Toujours de la même manière.
Ah bon?
Toujours de la même manière. Qu'est-ce que Fourastier nous a appris? Il nous a appris que la croissance, je le répète, est le produit du progrès technique et donc des découvertes scientifiques et techniques qui sont faites. Il est vrai qu'aujourd'hui, et tout particulièrement dans l'instant, au moment où surgissent sur la scène mondiale des géants nouveaux comme la Chine et l'Inde qui sont en train de déséquilibrer profondément les marchés de biens primaires, de pétrole d'abord et de matières premières ensuite, à ce moment-là, on a l'impression que on va aboutir à une impasse. C'est ce qui est vrai, c'est que l'extraction des matières premières tend à devenir de plus en plus chère, c'est notamment ce qui apparaît en ce qui concerne le pétrole, mais Par ailleurs, progressivement, on voit arriver de nouvelles énergies. Ici même, nous avons à Radio-Canal Académie récemment évoqué les travaux de Marcel Boiteux, n'est-ce pas, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, Boiteux vous explique que si on pouvait mettre des capteurs solaires sur 500 000 km² dans le Sahara, on aurait de quoi alimenter entièrement l'Europe en électricité. Bon, d'immenses possibilités, à la condition que le progrès technique ne soit pas ralenti et qu'au contraire, plus les choses avancent et plus nous recherchions des innovations.
Monsieur Chamou, Jean Fourastier disait tout de même, je le cite, « Toute croissance se heurte inéluctablement à des limites physiques tenant aux dimensions de la Terre ».
Oui,
c'est bien résumé les choses,
oui,
quand même.
À des limites physiques. Et d'ailleurs, dans la sélection d'une quinzaine de textes que nous avons faites à la demande de la revue Futurible dans le numéro du mois de novembre 2007, et qui reprennent des textes assez visionnaires de Fourastier, écrits au milieu des années 60 pour l'essentiel, on voit bien que Fourastier est préoccupé par cette dimension écologique de la croissance, c'est-à-dire par la conséquence que la croissance industrielle, la croissance de la consommation de biens matériels et de produits de la terre ou du sous-sol, que cette la conséquence que cette croissance peut avoir sur d'abord l'encombrement de nos villes, sur l'encombrement de nos poubelles, un jour ou l'autre, il faudra prendre ces dimensions en considération. Mais il nous donne un message qui est doublement optimiste. Il nous laisse entendre d'abord que grâce au progrès technique, une partie de ce qui sort de notre consommation d'aujourd'hui est recyclée et que plus on avance dans la maîtrise des techniques et des savoir-faire, et plus on est capable de recycler des choses qui ont été déjà utilisées auparavant, c'est-à-dire qu'on économise la matière première en prenant comme matière première des produits d'une production industrielle antérieure. Ça, il l'a très bien décrit, et c'est effectivement une vision d'ingénieur, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le secrétaire perpétuel. Et puis, la deuxième chose qu'il nous signale, et qui est très vraie, c'est que, en avançant dans le progrès technique, pour faire une auto, on a aujourd'hui besoin à peu près du dixième de la quantité d'acier que l'on consommait pour faire une 4 chevaux Renault dans les années 50. Autrement dit, le progrès technique nous permet de faire plus avec moins. Ce qui est une réponse aux soucis écologiques. Je ne dis pas qu'on ne consomme rien. On consomme toujours quelque chose, ne serait-ce que par la biologie de notre existence physique. Mais on consomme de l'oxygène, on consomme de la nourriture, on consomme. Mais on peut consommer moins et faire plus avec ce que l'on consomme grâce au progrès technique. Et c'est pour ça que je dis que les messages de Fourastier est un message d'optimisme. En nous disant, si nous faisons attention à ne pas gâcher et si nous exploitons notre savoir-faire en ayant une production plus économe et donc plus rentable, nous faisons deux bonnes actions. Une en faisant de la croissance, parce que nous faisons plus, et une en économisant, parce que nous consommons moins. Et le résultat pratique, c'est qu'on crée de la richesse.
Est-ce que Jean Fourastier avait prévu la concurrence aussi rude des pays en voie de développement, des pays qui ont une productivité humaine meilleure que la nôtre, et empruntent à toute vitesse les meilleurs rendements technologiques ? Il est plus à la pointe.
Oui, moi, je ne me souviens pas qu'il ait particulièrement développé ce thème. À son époque, le problème était plutôt le contraire. On venait de découvrir les pays sous-développés, le tiers-monde. Pays sous-développés et tiers-monde, ce sont des expressions d'Alfred Sauvy, n'est-ce pas ? On était inquiet de voir les inégalités commencer à exploser comme elles le faisaient, à partir d'une situation dans laquelle, jadis, avant l'ère industrielle, tout le monde était pauvre, tout le monde vivait mal. Il a des descriptions sur la vie paysanne dans son pays d'origine de Quercy, encore au début du siècle, qui sont vraiment très impressionnantes. Donc, on avait le sentiment que les pauvres pays sous-développés allaient être de plus en plus sous-développés. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Il se passe que la mondialisation ne favorise pas particulièrement les pays les plus développés, mais favorise d'une manière éclatante un certain nombre de pays sous-développés, et notamment les grands pays émergents que je citais tout à l'heure.
Monsieur Chamou.
C'est très vrai, mais il y a quand même un petit indice. Je dis bien que c'est un indice, ce n'est pas un développement à caractère prophétique. Mais il y a un indice. Dans quelques pages que j'ai reprises justement dans la sélection dont je parlais il y a quelques instants.
Dans Futurible.
Dans Futurible, il y a quelques pages où il nous dit clairement que ce qui s'est passé au XXe siècle en France ou en Angleterre pour la transformation du paysan du Quercy en un ouvrier ou un employé de dimension raisonnablement enrichie par rapport à aux générations précédentes, devrait se passer à brève échéance dans un pays comme l'Inde, et il cite effectivement les Indes, en disant ce pays où il y a une énorme réserve de main-d'œuvre agricole, très largement à la limite des capacités vitales, donc très, très pauvre et même pas toujours très bien nourri, ce pays peut nous réserver des surprises à l'avenir. Et je ne dis pas qu'il décrit ce qui est en train de se passer avec l'Inde de Bangalore, où on a aujourd'hui les ateliers de logiciels pratiquement les plus compétitifs du monde.
La capitale du monde en matière d'ateliers de logiciels. Voilà. Moi, je suis allé à Bangalore il y a un an et j'ai découvert ça.
C'est absolument impressionnant. Et d'ailleurs, il y a plus de 90 millions d'Indiens dont le niveau de vie est supérieur à celui des Français. Donc, nous avons bien un changement considérable de style de vie et de richesse dans cette partie de ce continent indien. Donc, il avait bien compris que ce qui s'est passé en France entre la période des années 30, période de la guerre mise à part, évidemment, et puis les années 70, peut se passer ailleurs. Et il décrivait l'Inde comme un endroit où ça devait se passer, très probablement, en raison de cette richesse de main-d'œuvre potentielle et de la capacité, évidemment, de la société indienne à passer très rapidement, grâce à la qualité de son enseignement et de sa tradition, du domaine de l'apprentissage abstrait au domaine de l'apprentissage et de la maîtrise des techniques. Alors, il ne nous a pas parlé de la Chine, qui est un autre phénomène, mais il faut dire aussi qu'il y a en Chine un phénomène de nature politique, historique, transitoire, qui est d'une nature très particulière et qui fait que la société chinoise se transforme dans des conditions tout à fait atypiques, je crois. Mais ça n'a pas été décrit du tout par Fourassier. Mais pour les Indes qu'il a pris comme exemple, il nous dit clairement que le passage de la société purement agricole, donc primaire, à une société secondaire, puis plus tard tertiaire, peut parfaitement se produire dans un pays de ce genre et qu'elle transformera le monde. Eh bien, nous en avons aujourd'hui la preuve.
Nous parlons de progrès technique, de croissance et de développement, et donc d'emploi. C'est l'intitulé du dernier colloque Jean Fourastier. Nous sommes en compagnie de Michel Albert et de Jean-Pierre Chamou. Nous marquons une toute petite pause.
Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Academy dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouard, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Academy fait enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Academy en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
D'accord. Nous avons déjà enregistré 23 minutes,
sur
chers
30.
Messieurs.
Il vous en faut 30, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Bon, ben voilà, on a...
Est-ce que ça vous va si on parle du dernier élément, de l'emploi ? Puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant.
Je voudrais dire peut-être un petit mot sur le comité Fourassier pour définir l'objet
et
le lien. Voilà, si vous voulez, le lien avec l'événement qui a provoqué notre rencontre aujourd'hui.
Comme ça, en conclusion, vous pouvez présenter le.
Et si moi je dois dire un mot, c'est de voir combien il est impressionnant que des personnalités aussi éminentes se soient déplacées
voilà.
pour.
Oui. Oui.
L'invention de Robert Solow, je pense, va être très intéressante.
Solow et puis de Michel Piveau aussi. Donc, peut-être...
Mais peut-être en conclusion, ça quelque chose de plus pratique. Faire, oui. Est-ce que vous voulez bien juste qu'on aborde pour terminer la question d'emploi?
D'accord.
Oui, combien? Lorsque nous parlons d'emploi, de croissance et de développement, puisque c'est l'intitulé d'une des tables rondes lors du colloque Jean Fourastier le 28 novembre 2007, Jean-Pierre Chamoux, est-ce que la croissance génère forcément de l'emploi ?
Si la question est posée d'une façon générale, je ne saurais trop y répondre avec clarté aussi grande que ce que nous a dit Fourastier. Moi, je vais m'en tenir à l'héritage de Fourastier, à l'héritage de sa méthode. Il ne nous a jamais laissé entendre que le seul fait d'avoir... que la croissance était nécessairement génératrice d'emploi. Mais il nous laisse entendre que s'il n'y a pas de croissance, il ne peut pas y avoir de développement d'emploi. Et que par conséquent, le pari que nous faisons en stimulant la croissance par tous les moyens, macroéconomiques ou financiers en particulier, ce pari est un pari qui est nécessaire pour obtenir de l'emploi. Cela dit, dans le message de Fourastier, il y a aussi une note de précaution qu'il a répétée et exprimée sous diverses formes très très souvent et qui est très instructive pour la France ou l'Europe ou même l'Amérique du Nord d'aujourd'hui. Fourastier nous dit très clairement que le propre d'une société qui bouge, c'est de suivre le progrès technique et de l'intégrer rapidement, et que la création de nouvelles activités liées au progrès technique laisse forcément de côté une partie de la population active. Et que donc, dans une société qui veut entretenir les normes naturelles de la solidarité entre les hommes et entre les hommes qui vivent sur un même territoire, il y aura toujours un souci particulier qu'il a d'ailleurs beaucoup développé pendant l'époque où il était au plan, qui était le souci de trouver les conditions aussi précautionneuses que possible pour que ceux que le progrès technique laisse temporairement de côté ne soient pas définitivement mis à l'écart de la société. Il y a donc une préoccupation de type humaniste ou de solidarité nationale à l'époque de Fourastier plutôt qu'internationale, qui nous dit clairement que le progrès technique est une clé de la croissance, que ce progrès technique laisse souvent des tranches de la population de côté et que donc la solidarité nationale doit s'exercer à l'égard de ces personnes qui sont en difficulté temporaire. Et l'un des moyens sur lesquels il met toujours l'accent, c'est celui de la formation, c'est-à-dire de l'adaptation de la capacité productive de chacun d'entre nous aux nouvelles techniques ou aux nouvelles conditions de production. Elle dit donc à travers la formation, qui est une expression particulière de la solidarité nationale dans ses développements, dans les développements de Fourastier, nous avons un moyen, peut-être parmi d'autres, mais en tout cas un moyen essentiel pour assurer que le minimum de gens reste sur le bord de la route lorsque la route se développe.
Monsieur Albert, comment développer l'emploi dans un contexte de mondialisation ?
Par le progrès technique et la compétitivité.
Et donc l'innovation et la recherche développement.
Et donc l'innovation, c'est toujours la même chose. Moi, je voudrais revenir un peu en arrière en disant que nous devons prendre conscience de ce que, à l'époque de Fourastier, ce qu'il nous a dit était complètement nouveau, complètement révolutionnaire, surtout en France. La France était un pays hanté par la crainte des conséquences néfastes du progrès technique. À preuve, le fait que l'exode rural a été considéré pendant au moins deux générations comme une horreur, n'est-ce pas, comme quelque chose qui allait faire basculer notre pays dans on ne sait quelle révolution, avec tous ces travailleurs des campagnes qui allaient s'agglutiner dans les banlieues, ça risquait de nous faire la révolution, etc. Bon, ce que Fourastier a démontré, c'est que s'il est vrai que, d'un point de vue microéconomique, en termes d'entreprise localement et à court terme, le progrès technique est très souvent destructeur d'emplois. Lorsque vous remplacez deux chevaux par un tracteur, il est certain qu'il faut moins de monde pour faire fonctionner le tracteur que pour faire fonctionner les chevaux. Et par conséquent, ça risque de vous faire de l'exode rural. Mais cet aspect microéconomique sur une entreprise et à court terme doit être mis en regard des effets de macroéconomiques globaux et à moyen terme, long terme, à plus long terme, qui se font dans le sens inverse et dans laquelle il y a bien création d'emplois. En effet, celui qui, grâce au progrès technique, va pouvoir passer du cheval au tracteur, va voir son pouvoir d'achat augmenter. Si son pouvoir d'achat va augmenter, ça signifie qu'il va acheter davantage. S'il achète davantage, il va, en achetant, créer des emplois. Mais la difficulté pédagogique provient du fait que le progrès technique à court terme et microéconomiquement est bien vu dans ses conséquences néfastes à court terme, mais que ce qui est à moyen terme et global est évidemment beaucoup plus difficile à discerner.
D'où la nécessité d'investir dans la recherche et le développement. C'est parfois le point faible de certaines de nos économies.
Mais ce n'est pas parfois, c'est aujourd'hui le point faible de l'économie française. Et moi, je vais vous donner un exemple que je trouve très frappant. Savez-vous quel est le budget global des dépenses d'enseignement supérieur en France ? À peu près 15 milliards d'euros. Quel est le budget global de la dépense de recherche scientifique et technologique en France ? À peu près 15 milliards d'euros. Savez-vous quel est le déficit annuel de l'assurance maladie en France ? À peu près 15 milliards d'euros. Un pays qui dépense année après année, qui accepte un déficit pour se soigner de 15 milliards d'euros, autant que l'ensemble de son budget recherche scientifique et technique, est évidemment un pays qui se prépare des jours douloureux.
Monsieur Chamou,
oui. Puis-je juste glisser un aphorisme que je trouve... Il ne vient pas de Fourastier, mais il est très antérieur. Il date du siècle précédent, c'est-à-dire du 19e siècle. C'est un aphorisme de Frédéric Bastiat qui disait à peu près, en quelques mots que je vais citer dans une seconde, la même chose que Fourastier. Il disait, dans l'économie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est la disparition des canuts. Ce que l'on ne voit pas, c'est que derrière les canuts, il y a des machines, que ces machines permettent de fabriquer de la soie en beaucoup plus grande quantité, qu'il y a les gens qui vendent le produit de ces machines, qu'il y a ceux qui réparent les machines, et qu'au bout du compte, dans ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire qui ne saute pas aux yeux, et en particulier aux yeux compassionnels, il y a toute une création de richesses, de valeurs, de nouveautés, qui fait la croissance et qui crée le progrès économique, qui est le ferment des progrès. Sous une autre forme, le message de Fourastier est le même. Mais il nous dit quelque chose de plus que Bastiat, lui, ne disait pas, parce qu'au milieu du 19e siècle, on ne parlait pas comme ça. Mais je reviens sur le point que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est très clair dans le message de Fourastier, qui est un message humaniste et qui est un message de solidarité à l'échelle nationale à son époque. Son message de solidarité est que les gens qui sont laissés sur le carreau par le progrès technique doivent être pris en charge par les autres, que cet effet de la solidarité est non seulement un effet du cœur, mais un effet de la raison. Et que l'effet de la raison, il est que si on les met au travail, on augmente le nombre de gens qui sont capables de contribuer, de consommer et de produire, et donc on augmente pour tout le monde, et qu'il y a un effet vertueux de cette aide et de cette solidarité. Et ça, ça apparaît très clairement dans son message, et je trouve que c'est un formidable message d'espoir, et dans notre époque, ce début du 21e siècle, où les messages macroéconomiques sont souvent assez angoissants, c'est pas mal de revenir à un message d'espoir créateur.
Et si vous permettez, merci beaucoup, je trouve que vous venez de nous donner une leçon d'économie forestierienne absolument merveilleuse. Bravo.
Merci à vous, monsieur Albert, merci à vous, monsieur Chamou. comprend effectivement la clarté de la pensée de Jean Fourastier. Monsieur Chameau, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité Jean Fourastier en quelques mots?
Alors, le comité Fourastier, oui, merci, donc, que j'ai le plaisir de présider aujourd'hui, a été présidé par, il a été fondé et présidé par Monsieur Cluzel, d'abord, puis par Monsieur Michel Albert, et puis par Pierre Tabatoni, qui a
qui
disparu.
Qui est décédé, n'est-ce pas, auquel voilà. Nous devons rendre le plus.
Qui a disparu à la tâche.
Ah, oui.
Et qui, c'est en raison de sa disparition beaucoup trop soudaine et trop tôt, que je me suis trouvé à substituer le moins mal que je peux sa présidence. Il y a donc des liens très intimes entre le comité Fourastier et les institutions académiques. Je dois dire que dans la vie de Jean Fourastier lui-même, sa participation à l'Académie des sciences morales et politiques a toujours été un de ses premiers soucis, qu'il attachait beaucoup d'importance à la tradition, au décorum académique et à l'Institut de France. Lorsque nous avons créé le comité avec quelques amis et anciens élèves de Fourastier, ce que je ne suis pas moi-même, moi je suis une pièce rapportée dans ce dispositif, par sympathie pour Fourastier et par son message, lorsque nous avons créé, nous avons voulu, non pas préparer encore le centenaire qui a lieu cette année 2007, mais lancer un prix de thèse dans les milieux de l'université française, de façon à ce que l'on puisse entretenir la mémoire de la méthode et du style, de la vision que Fourastier avait sur l'économie contemporaine. Alors, nous avons fait ça en 1996. J'ai eu le plaisir que le premier prix de thèse soit remis à l'époque par le futur Premier ministre qui était Jean-Pierre Raffarin, qui était à ce moment-là mon patron direct, puisque j'étais son collaborateur au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat. Et donc, il a bien voulu remettre le premier prix Fourastier à trois jeunes chercheurs qui maintenant ont fait leur trou dans l'université. Et puis depuis, tous les deux ans, nous remettons un prix de thèse, qui est dotée aujourd'hui par une petite firme de consultants qui s'appelle Nodal Consultants, qui est spécialisée dans le progrès technique et dans les travaux sur l'innovation. Et grâce à ça, nous entretenons un peu la méthode, la connaissance et le style de Fourastier. Je ne pense pas que cela dure éternellement, mais déjà on sent que le ferment d'une reprise de ses idées dans l'école économique contemporaine est en cours, et c'est un très grand honneur pour nous d'avoir comme hôte étranger d'honneur au Conservatoire des Arts et Métiers pour ce colloque sur Jean Fourastier, le professeur Robert Solo, qui est un prix Nobel d'économie et dont le grand titre de gloire, celui qui a été reconnu par ce prix qu'on appelle aujourd'hui le Nobel d'économie, qui est une contraction d'un prix économique doté par l'Académie des sciences suédoises, Monsieur Robert Solo s'est illustré en démontrant effectivement l'effet du progrès technique, y compris sur un certain nombre de domaines qui ont été très largement contestés avant lui, par exemple sur l'informatique, l'informatique ayant été certes industriellement un domaine de très grands progrès techniques, mais l'usage de l'informatique a mis un certain temps à démontrer son utilité pour la croissance et pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises. C'est maintenant chose faite, et Solo était le prédécesseur des constats contemporains que, avec l'informatique et les nouvelles technologies d'information et de communication, on a aussi un gain de puissance et de compétitivité dans tous les domaines, comme celui que vous connaissez le mieux, monsieur le secrétaire perpétuel, qui est l'assurance et les services financiers correspondants.
Merci beaucoup. Je renvoie également nos auditeurs donc à l'émission qui est consacrée à ce colloque, avec les allocutions de Robert Solo ainsi que l'allocution de Michel Pébreau. Je renvoie également nos auditeurs à nos émissions consacrées à Jean Fourastier, l'une en compagnie de Jean-Louis Harwell et l'autre en compagnie de Jacqueline Fourastier, la fille de Jean Fourastier. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Merci beaucoup, Monsieur Chameau.
Merci de votre accueil.
Thank you.